France Inter, il est 13h. Le 13-14, Marion Lourd.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13-14, ravi de vous retrouver sur France Inter, à la une aujourd'hui. Ils réclament la vérité sur la mort de leur fille. Les proches de la petite Maëlys sont arrivés ce matin pour le procès très attendu de Nordal Lelandais. L'ex-militaire encourt la perpétuité pour meurtre et séquestration. Nous serons dès le début de ce journal en direct de la cour d'assises de Grenoble avec notre envoyé spécial. Suite du scandale Orpea, ces maisons de retraite accusées de viser la rentabilité maximum au risque de maltraiter leurs résidents. Le groupe a limogé son directeur général. Hier, on vous racontera les coulisses de ce départ. Dans le journal aussi, la colère de Christiane Taubira, l'ex-garde des Sceaux sortie victorieuse de la primaire populaire, juge irrespectueux ses adversaires à gauche, vous l'entendrez. Les arnaques aux comptes personnels de formation visées par une proposition de loi, on en parle avec son auteur, la députée LREM Catherine Fabre. Une question aussi, la cinquième vague de Covid est-elle passée? Les contaminations baissent, reportage aux urgences de Mont-de-Marsan qui voit pourtant arriver de plus en plus de Covidés, difficile de faire face car les soignants eux-mêmes sont touchés.
Là j'en suis à mon cinquième médecin en une semaine, légère, hein, mais bon, voilà, quand on a de la fièvre, quand on tousse, quand on a le nez qui coule, faut quand même s'isoler et donc je peux pas de suite les remettre au travail et donc il y a des fermetures de lits en rapport avec des personnels en arme.
La suite dans quelques minutes et entretien à 13h30 avec Yazdan Pana, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Bichat. Vos questions 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Au programme aussi du sport avec ce nouveau feuilleton sur les cours de tennis avec des graines de champions et du son. Spotify, sous le feu des critiques, va sévir contre les podcasts anti-vax disponibles sur sa plateforme. On écoutera aussi Portiched dans la chronique C'est une chanson. Le 13-14, vous avez le menu, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Les parents de la petite Maëlys veulent comprendre ce qui s'est passé le 27 août 2017, comment leur fille a été tuée, quels ont été ses derniers mots. Ils souhaitent aussi voir le meurtrier rester plus longtemps en prison. Le procès de Nordal Lelandais s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Grenoble. L'ancien militaire, ancien maître chien, est jugé pour meurtre, précédé d'enlèvement et séquestration de la fillette de 8 ans. Il doit répondre aussi d'agressions sexuelles sur ses petites cousines. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
Vous êtes à Grenoble pour France Inter. Beaucoup de monde pour la première audience aujourd'hui.
Oui, sur le parvis du palais de justice, une centaine de personnes se sont rassemblées avec une banderole en lettres rouges, justice et vérité pour Maëlys. Puis la famille de la petite fille est arrivée, serrée les uns contre les autres au milieu des caméras et des micros. Le père, Joachim, la grande sœur, Colline et la mère, Jennifer. Ils ont déposé à l'entrée de la salle d'audience un grand portrait peint de Maëlys, visage souriant de cette petite fille brune de 8 ans et demi, visage qu'ils n'ont jamais revu depuis cette nuit d'août 2017. Sur les bancs des parties civiles, les deux parents séparés depuis le drame sont assis de chaque côté de leur fille aînée. Face à eux, dans le box, l'accusé, Nordal Lelandais, chemise bleu clair et cheveux courts grisonnants, barbe de 3 jours. Quand il se présente d'une voix calme et claire, la mère de Maëlys, elle, serre sur ses genoux une photo de sa fille.
Mathilde, que peut-on attendre de ce procès ?
Eh bien, toute la question est de savoir si Nordal Lelandais va donner des explications sur ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Jusqu'ici, il assure avoir tué involontairement Maëlys, une thèse à laquelle ne croit pas la famille. Maître Laurent Boguet est l'avocat du père de la petite fille, Joachim.
Il est ici en quête de justice et principalement effectivement de vérité. Donc nous verrons quel est le degré de participation qu'entend effectivement imprimer un accusé qui a eu, permettez-moi de le souligner, 4 longues années pour s'y préparer.
Nordal Lelandais a toujours nié tout abus sexuel sur Maëlys. Les faits de viol ou d'agression n'ont pas été retenus contre lui, faute de preuves. Mais Lelandais est jugé en revanche pour des atteintes sexuelles commises sur 2 petites cousines. De 5 et 6 ans. Il s'est filmé en train de les toucher pendant leur sommeil au cours de ce même été 2017. Peu de temps avant la disparition de Maëlys, il risque la perpétuité.
Mathilde Vinceneux avec les moyens techniques de Marc Garvenès pour France Inter. Verdict attendu autour du 18 février. Un départ et ça repart. Les actions des maisons de retraite Orpea se reprennent à la Bourse de Paris. Une hausse de près de 10% à l'ouverture, finalement plus modérée. Elle fait suite au limogeage hier soir du directeur général du groupe, mis en cause pour sa recherche de la rentabilité à tout prix au détriment des personnes âgées résidentes. Bonjour Thomas Giraudot.
Bonjour.
Le conseil d'administration sacrifie son patron à la veille d'une échéance importante. Quelles sont les coulisses de ce départ ?
Eh bien en fait, chacun y va de son interprétation. Côté syndical, c'est juste un fusible qui saute pour la CFDT. l'humanité, le symbole d'un groupe qui cède à la panique, une forme d'aveu pour la CGT. Corpéa a quand même bien des choses à se reprocher. Au contraire, le limogeage du directeur général ne présage en rien que les accusations sont fondées, rétorque une source proche d'Orpea interrogée par l'agence France Presse. Alors révoquer le patron, c'est d'abord envoyer un message aux actionnaires. Il fallait montrer que le groupe agit après les révélations, qu'il tourne une page, selon un analyste financier bon connaisseur du secteur. Ce dernier insiste aussi sur le profil du remplaçant, le nouveau PDG d'Orpea, Philippe Charrier. L'homme a déjà dirigé plusieurs entreprises, dont le géant alimentaire Procter & Gamble en France. Il a les épaules pour gérer la crise, selon cet analyste. Premier rendez-vous pour Philippe Charrier demain matin dans le bureau de la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, qui se réserve le droit de lancer une enquête de l'Inspection Générale des Affaires Sociales si les réponses ne sont pas assez convaincantes.
Thomas Giraudeau, Service Économie et Sociale de France Inter, merci à vous. De leur côté, certaines familles de résidents d'EHPAD Orpea prévoient une action collective contre le groupe en mars prochain. Et les dirigeants d'EHPAD privés, qu'en disent-ils? Leur syndicat, le Sinerpa, qui représente notamment l'entreprise Orpea, donnait une conférence de presse ce matin, toujours dans la foulée des révélations du livre Les Fossoyeurs de notre confrère Victor Castanet. Bonjour Anne Orenstein.
Bonjour Marion.
Vous avez suivi cette prise de parole pour France Inter et les professionnels se défendent.
Oui, face caméra, la déléguée générale du Sinerpa, Florence Arnaise-Maumet, semble étrangler des sanglots dans sa gorge.
L'exceptionnelle déflagration autour de la parution du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet nous a terrassés. Nous comprenons l'émotion des Français. Nous sommes conscients que nous devrons restaurer la confiance par la transparence et l'éthique. S'il y a des dérives, elles doivent être sanctionnées. Pour qu'elles le soient, il faut que les contrôles aient effectivement lieu.
Sous-entendu, les ARS comme les départements n'ont pas fait leur travail de contrôle ou pas bien. Le Sinerpa demande donc à l'État de relancer les contrôles inopinés, mais aussi d'en permettre une meilleure analyse en centralisant les rapports. Le Sinerpa propose également la mise en place d'une certification par la Haute Autorité de Santé. C'est le cas par exemple pour les hôpitaux ou les cliniques. Ça doit permettre de renforcer l'engagement qualité des EHPAD. Et puis le syndicat se dit ouvert à la visite d'élus locaux et de représentants des pouvoirs publics pour discuter avec les résidents et leurs familles. Enfin, sur la question des marges arrière, le Sinerpa insiste, jamais une telle pratique n'était remontée jusqu'à eux. Ils en restent choqués. Une charte éthique sera donc prochainement mise en place pour prévenir d'autres dérives.
Anne Orenstein, Service Sciences et Santé de France Inter, merci à vous. Est-ce un tournant de la campagne ou une candidature de plus à gauche? Christiane Taubira, sortie victorieuse de la primaire populaire avec ses près de 400 000 votants, devait appeler ce matin les autres candidats de gauche pour tenter d'organiser l'union en vue de la présidentielle d'avril. Il ne s'agit pas de boire un chocolat chaud, explique l'ex-garde des Sceaux, mais de répondre au problème du pouvoir d'achat de millions de Français. Problème, les interlocuteurs ont déjà fermé la porte. Je ne suis pas concernée, dit Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Elle n'a pas de programme, les reproche le communiste Fabien Roussel. Rien à dire à la gagnante, réplique l'écologiste Yannick Jadot. La socialiste Anne Hidalgo ne se sent pas, elle, engagée par ce résultat. Des réponses inacceptables pour Christiane Taubira.
C'est extrêmement irrespectueux vis-à-vis des personnes qui ont organisé ces primaires, mais vis-à-vis des personnes qui ont choisi d'y participer, qui s'y sont engagées, qui ont voté. C'est profondément irrespectueux. Et c'est étonnant parce que ça ressemble davantage justement un peu à cette forme de gouvernement, cette forme présidentielle que nous avons sous les yeux depuis 5 ans. Cette réaction, cette hauteur, cette distance, pardon, mais mépris est peut-être un mot trop fort, mais cette façon de tenir quand même en distance de façon hautaine un processus démocratique, alors vous me reconnaîtrez simplement ma cohérence dans mes attitudes, dans mes propositions et dans la façon dont je conduis cette campagne.
Christiane Taubira, invitée de Marc Fauvel et Salia Braclia sur France Info ce matin. L'une des grandes perdantes, en tout cas, de cette primaire populaire, c'est la socialiste Anne Hidalgo, arrivée en 5e position. Derrière Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Pierre Larouturou. Antoine Gignot, la maire de Paris, l'affirme, elle n'abandonnera pas la course à la présidentielle, mais sa candidature s'en trouve encore fragilisée.
Officiellement, rien n'a changé. Le programme d'Anne Hidalgo est bouclé jusqu'au 10 février, lance Patrick Kanner. Le patron des sénateurs socialistes promet que sa candidate est certaine d'avoir les 500 parrainages nécessaires, certaine aussi d'avoir les fonds. On ne peut pas en dire autant, dit-il, de Christiane Taubira. Attention au déni, modère tout de même un cadre du Parti Socialiste. Il faut tenir compte du vote des centaines de milliers de participants à la primaire populaire, adapter la campagne, rendre plus lisible l'identité d'Anne Hidalgo. Depuis le départ, c'est un problème de positionnement, s'étrangle même un ancien ministre. Anne Hidalgo, dit-il, a commencé sa campagne en étant écologiste. Maintenant, elle est plus social-démocrate que jamais, sans avoir réussi à définir la social-démocratie. C'est trop tard, dit-il, les gens sont désabusés et certains se tournent vers Christiane Taubira, comme Benoît Payan, le maire de Marseille, qui confirme ce matin son soutien à la gagnante de la primaire populaire. Ce n'est pas de la faute de notre candidate, tempère tout de même un membre du Conseil national du PS. Anne Hidalgo, dit-il, ne peut pas réinventer en 6 mois ce que la gauche n'a pas fait depuis 2017.
La primaire populaire au programme aussi du Téléphone sonne ce soir à partir de 19h20 sur Inter. Un autre parti socialiste très en forme, celui-là le PS portugais et Antonio Costa, le Premier ministre qui remporte haut la main leurs élections législatives. Majorité absolue au Parlement avec 41,7% des voix, alors que les sondages donnaient le parti au coude à coude avec l'opposition de centre-droit. En bref, encore à l'étranger, des meurtriers de policiers en fuite activement recherchés en Allemagne. Tôt ce matin, ils ont tiré et tué 2 agents lors d'un contrôle routier près de Kaiserslautern en Rhénanie-Palatinat. On ignore tout pour l'instant de leur motivation. Et puis le rebond économique est une tendance dans toute l'Europe. La zone euro affiche pour l'an dernier une croissance de 5,2% après une chute de 6,4% l'année précédente. Et qui dit rebond économique en ce moment dit hausse des prix, notamment dans le secteur de l'énergie. Le gouvernement a publié hier les arrêtés pour contenir la flambée de l'électricité, 4% maximum de hausse sur le tarif réglementé. En revanche, l'essence, elle, reste bien chère et conséquence, les vols sont en hausse chez les professionnels, routiers, salariés du BTP ou agriculteurs, des méfaits difficiles à éviter, témoignage au micro de Renaud Candelier.
Sur le parking d'une station-service de l'A19 près de Sens, Nicolas fait partie de ces nombreux chauffeurs qui ont déjà été victimes de vols.
Je me suis arrêté à l'entrée de Paris, je me suis endormi le soir et puis le lendemain, 5h du matin, je fais le tour du camion. Mon réservoir était percé. Camion. Moi je dormais, oui, j'ai rien entendu. Les chauffeurs à côté de moi, rien du tout.
Des vols commis par des spécialistes, explique Bruno Blovac, représentant Force Ouvrière.
C'est vraiment des gens qui sont organisés pour faire ça. Ils ont des camionnettes, ils ont des bidons. Vous mettez pas 800 litres comme ça dans une jerrycan.
C'est à la fois difficile et coûteux de se protéger, estime Reynald Betry, la société de transport du même nom basée dans le Chablisien.
On peut avoir des systèmes d'alarme qui vont sonner comme sur une maison. Bien souvent, c'est des systèmes qui coûtent cher.
Pourtant, son entreprise de 50 camions se fait voler chaque année beaucoup de gasoil.
Des années, on peut avoir 3000 litres de gasoil volé sur une année 10 000 litres.
Des vols de carburant qui interviennent à des moments précis, explique Reynald Betry.
Dès que le gasoil monte, le prix du gasoil monte, ou dès qu'on arrive en période hivernale, où les gens rallument les chauffage au fioul, les vols de gasoil sont plus conséquents qu'en été ou au printemps.
En cas de vol, la plupart des assurances remboursent la casse du matériel, mais pas le carburant.
Un reportage France Bleu Auxerre. Vous avez peut-être reçu par email ou SMS ces messages qui vous invitent à dépenser très vite le contenu de votre compte formation au risque de voir votre réserve s'envoler. Ce sont généralement des arnaques visant à vous soutirer de l'argent, arnaques qui ont fait depuis 2019 plus de 14 000 victimes pour un préjudice de 16 millions d'euros. C'est pour lutter contre ce phénomène qu'une proposition de loi doit être déposée cette semaine à l'Assemblée nationale. À l'origine de ce texte, Catherine Fabre, députée LREM de Gironde. Catherine Fabre qui est avec nous sur France Inter, bonjour.
Bonjour.
Et comment vous comptez vous y prendre dans cette proposition pour empêcher ces arnaques ?
En fait, c'est d'abord un signal fort. On n'a pas attendu pour agir. Le ministère du Travail et la Caisse des dépôts sont déjà à pied d'œuvre pour multiplier les contrôles, sanctionner les personnes condamnées, ces organismes de formation mal intentionnés qui font du démarchage agressif. C'est surtout du démarchage agressif. Et c'est vrai qu'on a tous reçu ces SMS ou ces appels intempestifs. Ce sont des nuisances qui viennent polluer la loi, qui par ailleurs, cette réforme de la formation professionnelle et de la apprentissage est un vrai succès, et c'est ça qui est dommage en fait, c'est qu'ils viennent polluer ce vrai succès.
Mais donc qu'est-ce qu'elle ajouterait votre loi au dispositif existant ?
Un signal fort, quelque chose de clair qui dit la formation professionnelle, on ne peut plus faire de démarchage agressif, c'est interdit, et donc finalement un instrument pour sanctionner de manière beaucoup plus directe et beaucoup plus simple.
Mais le texte n'aura pas le temps d'être examiné avant la fin de session parlementaire.
Alors normalement, voilà, la Constitution prévoit 6 semaines pour qu'on puisse porter une loi et donc la session sera terminée. Mais en tout cas, voilà, ça nous amène, ça fait une possibilité d'action avant la fin de l'été, avant la fin du printemps, avant le début de l'été, ce qui est quand même pas mal. Donc l'idée, c'est de préparer les choses pour pouvoir agir au plus vite.
Pour un éventuel second mandat, c'est ça que vous me dites ?
Oui, mais même si on changeait de législature, en tout cas, le texte serait prêt et donc pourrait être rapidement pris en main. Voilà. L'idée, c'est de préparer les choses pour l'avenir. Vous savez, moi, je me situe sur le long terme. Cette réforme, elle est structurelle. Comme je le disais, elle a vraiment des effets prometteurs. Deux fois plus de personnes ont accès à la formation. Ce sont des profils qui, normalement, n'y ont pas accès. Des ouvriers, des employés, des femmes. Donc, un vrai succès. Et donc, il est hors de question que ces personnes mal intentionnées viennent polluer ces résultats qui sont bons.
Et voilà. Donc, quoi, ça alourdirait les sanctions pour ces organismes-là ?
Alors, probablement, et puis surtout, ça poserait de manière juridique, de manière très claire, le fait que, pour la formation professionnelle, on ne fait pas de promotion des ventes, on ne fait pas de démarchage agressif. Ça aurait le mérite de poser les choses dans la loi.
Mais aujourd'hui, ça, vous me dites qu'il y a déjà des contrôles, donc qu'est-ce que ça rajoute en fait ?
Ben aujourd'hui, les contrôles, ils portent surtout sur les arnaques dont vous parliez.
Oui.
Par exemple, il y a des messages qui sont mensongers. Le fait de dire « vous allez bientôt ne plus avoir droit à vos droits qui vont vous être pris », c'est faux, c'est un mensonge, et ça, il faut vraiment le dire aux auditeurs.
Donc on se méfie quand on reçoit ce genre de message ?
Alors, quand on reçoit ce genre de message, on ne répond pas et on efface de suite. Voilà, on n'a pas à être démarché sur la formation. C'est à vous de savoir la formation que vous souhaitez faire. Si vous avez besoin d'un conseil, vous avez un conseiller en évolution professionnelle gratuit que vous pouvez aller voir pour vous conseiller. Donc, on ne répond pas à ces pubs qui, pour certaines, sont mensongères. Voilà. Et donc, les sanctions aujourd'hui, elles sont pour les arnaques. Elles sont pas pour le démarchage commercial agressif. Et nous, on souhaite aller plus loin. On souhaite aussi interdire le démarchage agressif. Parce que, comme vous l'avez dit, on a tous reçu des SMS. Et les gens n'en peuvent plus. Les usagers, ils ont pas envie d'avoir ces nuisances. Et donc, on est très déterminés pour les stopper.
Un dernier petit conseil. Donc, on répond pas aux messages, on les efface. Un autre conseil pour les auditeurs qui seraient concernés par
oui,
ce genre de sollicitations.
Signaler également. Lorsqu'ils sont victimes notamment d'arnaques, il y a la possibilité de signaler sur l'application Mon Compte de Formation ces abus. Et donc, la Caisse des dépôts et des consignations, aujourd'hui, lorsqu'elle a des signalements, elle peut, par exemple, des personnes qui se sont fait arnaquer sont remboursées par la Caisse des dépôts aujourd'hui. Donc voilà, les gens qui sont victimes de vraies fraudes, et ça, il y en a très peu, c'est quand même très rare, mais ceux qui sont victimes peuvent le signaler. Et puis pour les autres, voilà, bientôt ça sera interdit, ce démarchage agressif.
Catherine Fabre, députée LREM de Gironde, merci d'être venue en direct sur France Inter.
Je vous en prie.
Le pic de la nouvelle vague de Covid est-il derrière nous ? En tout cas, le nombre de contaminations est en baisse depuis le milieu de semaine dernière. 338 000 par jour, tout de même en moyenne hebdomadaire. Dès mercredi, quelques contraintes sanitaires disparaîtront. Les jauges, le masque en extérieur, le télétravail obligatoire. Cela dit, l'hôpital reste sous pression. Le nombre de patients Covid augmente, sauf en réanimation. Et les urgences voient arriver aussi des malades. Un patient sur 10, par exemple, aux urgences de Mont-de-Marsan, dans les Landes. De quoi engorger le service déjà diminué par le nombre de soignants malades, Nina Valette.
La bobologie, on connaît depuis des années à l'hôpital, mais désormais il y a la bobologie liée au Covid. Romain Blandet est le chef du service des urgences de Mont-de-Marsan.
Il y a les patients qui ont un Covid léger, un rhume, le nez qui coule, un peu de toux, qui viennent d'être diagnostiqués, qui sont angoissés et qui consultent aux urgences parce qu'ils ont cette angoisse. On doit quand même les isoler, on doit s'occuper d'eux. Et cela, je pense qu'il faudrait vraiment, vraiment qu'ils puissent consulter plutôt leur médecin traitant.
Des patients positifs qu'il faut prendre en charge différemment, sur un circuit différent. Et ne pas les mélanger aux autres patients. Et puis il y a les patients Covid qui, eux, ne viennent pas pour le Covid.
Je fais du sport, je me fais une entorse et j'ai le Covid. Ceux-là, ben, évidemment, il faut qu'ils viennent parce que s'ils sont blessés, qu'il faut faire une suture, une radio, c'est normal. Mais c'est vrai que nous consommons un peu plus de ressources et ça a tendance à ralentir le flux. Mais c'est légitime.
Les ressources, dans le jargon, ça veut dire des soignants, des médecins qui, eux aussi d'ailleurs, sont touchés par le Covid dans le service.
Là, j'en suis à mon 5e médecin en une semaine. Enfin, légère, hein, mais bon, voilà, quand on a de la fièvre, quand on tousse, quand on a le nez qui coule, faut quand même s'isoler et donc je peux pas de suite les remettre au travail et donc il y a des fermetures de lits en rapport avec des personnels en arrêt.
Tout un tas de raisons qui expliquent donc la saturation des urgences et résultats des patients hospitalisés 24 heures ne peuvent plus quitter leur brancard pour une chambre faute de place.
Un reportage France Bleu Gascogne, vous l'avez compris le message, c'est un Covid ne rime pas forcément avec un passage aux urgences. Pour faire le point sur l'épidémie en chiffres, rendez-vous sur notre site franceinter.fr. Vous pouvez aussi poser vos questions à 13h30 à Yazdan Panah, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital parisien de Bichat et membre du conseil scientifique. Appelez-nous au 01 45 24 7000. Les talibans et leurs alliés sont-ils des interlocuteurs acceptables pour l'Occident ? Les nouveaux détenteurs du pouvoir en Afghanistan ont tenté de se faire entendre la semaine dernière à Oslo et demander le déblocage de l'aide humanitaire pour leur pays, mais un rapport des Nations Unies vient entacher leur crédibilité. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
D'après ce document, depuis la prise de pouvoir des talibans à Kaboul, une centaine de proches du gouvernement allemand, du gouvernement ou d'employés de la force de coalition auraient été tués ou enlevés.
Oui, effectivement, une centaine d'assassinats, c'est en tout cas le nombre de cas jugés crédibles par la mission de l'ONU en Afghanistan, dont le rapport sur les 6 premiers mois de pouvoir taliban a donc été présenté par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, devant le Conseil de sécurité. C'est vraiment un rapport accablant, alors que les talibans essaient toujours d'obtenir la reconnaissance internationale dont ils ont besoin pour obtenir le déblocage des aides et des coopérations qui empêcheraient le pays de sombrer. Les talibans, qui avaient promis une amnistie générale pour les personnes liées à l'ancien gouvernement et aux forces de la coalition, ont donc rejeté ces accusations. Ils assurent que leur organisation n'y est pour rien, qu'il ne s'agit que d'actes individuels, de rivalité personnelle. Mais le rapport de l'ONU enfonce le clou sur les atteintes aux droits des femmes, les menaces, les intimidations sur la société civile, les juges, les journalistes, tous ceux qui s'opposent au nouvel ordre afghan. Pas un pays pour l'instant n'a reconnu le gouvernement taliban. Tous les avoirs internationaux du pays restent gelés. L'aide humanitaire est, elle, débloquée, mais jusqu'à la fin de l'année seulement.
Claude Guibal, merci à vous. En Birmanie, cela fait un an que les militaires sont au pouvoir. Le 1er février, la junte renversait le gouvernement d'Aung San Suu Kyi. Depuis, le mouvement de contestation a été durement réprimé. 1500 opposants tués, 12 000 emprisonnés, selon les ONG. Pourtant, la résistance s'organise. Un gouvernement parallèle d'Union nationale est en place depuis avril dernier. Un de ses ministres, en charge des droits humains, est de passage en France cette semaine. Franck Madbon l'a rencontré.
En 88 déjà, quand les étudiants birmans se soulèvent contre l'armée, Aung Myo Min est dans la rue. Le 1er février l'an dernier, cet illustre militant des droits de l'homme sait ce qu'il attend après le putsch.
Dès que j'ai entendu la nouvelle, j'ai décidé de faire mes valises et de quitter mon domicile. Je savais que j'étais sur la liste en tant que figure des droits de l'homme dans le pays. Et j'ai bien fait. L'armée est bien venue chez moi, mais n'a trouvé personne et est reparti.
Aung Myo Min se cache avant de fuir à l'étranger. Il est alors choisi pour prendre en charge le dossier des droits de l'homme au sein du gouvernement birman d'opposition. Les militaires ont commis d'innombrables exactions depuis un an.
Ils sont totalement déterminés à anéantir toute opposition. L'armée est une institution criminelle qui commet toutes sortes de violations des droits de l'homme et aucune justice n'est rendue.
Mais l'armée, dit-il, est moins puissante qu'on ne le croit.
Ce qu'ils ont, ce sont les armes, mais ils ne sont pas assez puissants pour arrêter le mouvement du peuple. Un an après le coup d'État, les militaires sont faibles en termes de soutien populaire et de reconnaissance internationale.
Aung Myo Min parcourt le monde pour sensibiliser la communauté internationale au combat pour la démocratie en Birmanie et appeler l'Occident à durcir les sanctions contre la junte.
Happy birthday, le Brexit. Joyeux anniversaire, le Brexit, quoique joyeux, ça reste à voir. 2 ans après la sortie de l'Union européenne, difficile de mesurer les bénéfices du divorce pour le Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique, en pleine tourmente politique, annonce aujourd'hui un projet de loi pour alléger, dit-il, les entreprises de la paperasserie européenne et du fardeau réglementaire. Côté français, les pêcheurs font les comptes. Ils auraient eu 93% des licences demandées pour aller attraper leurs poissons dans les eaux britanniques, affirme le ministère de la Mer. Pour en être bien sûr et préparer l'avenir des déçus, le président de la République a nommé un monsieur licence de pêche. Il s'exprime pour la première fois au micro France Inter de Mathilde Dehimy.
Il a eu 3 semaines pour parcourir les 3 régions concernées et rencontrer 80 patrons pêcheurs en entretien individuel et confidentiel. Objectif, lister leurs besoins. Et à peine rentré de Normandie, Philippe de Lambert-Desgranges note des traits communs.
Une profonde attente concernant le résultat des négociations, pour partie d'ailleurs une certaine incompréhension, et en même temps une très grande capacité à vouloir rebondir, à vouloir envisager différents moyens pour passer au-delà de ce mauvais cap si effectivement ils avaient à faire face à un refus définitif de licence.
Certains entretiens ont permis de déceler de nouveaux éléments pour tenter de décrocher une autorisation britannique. Les pêcheurs disent aussi à l'administrateur général des affaires maritimes qui ne sont pas prêts à abandonner leur bateau.
Il y a extrêmement peu de demandes de plans de sortie de flotte. En revanche, je constate la prévalence d'une forte volonté soit de se recentrer sur son activité dans les eaux françaises, française, d'essayer de se diversifier. Pour certains, des démarches en termes de modernisation, c'est-à-dire de réduction de leur coût de fonctionnement pour essayer de compenser l'éventualité du refus de licence.
Philippe de Lambert-Desgranges doit rendre un premier rapport à la ministre dans les tout prochains jours avant de poursuivre encore un ou deux mois sa mission.
Le bord de mer en alerte sur le littoral du Nord, vigilance orange, attention aux vagues sur le Var, vigilance orange également à cause des vents violents. Le point complet sur la météo, c'est juste avant 13h30 sur Inter. Spotify, vous connaissez cette plateforme qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés dans l'ordre qui vous plaît? Eh bien Spotify, on en parlait récemment dans le 13-14 et sous le feu des critiques depuis quelques jours, boycotté même par des artistes comme Neil Young et Joni Mitchell pour avoir laissé se propager de fausses informations autour de la Covid. Ce week-end, dernier en date, le prince Harry et Meghan Markle, eux-mêmes qui sont en contrat avec Spotify, faisaient part de leur inquiétude. Conséquence, hier soir, le patron de la plateforme de streaming suédoise Daniel Ek a annoncé notamment un renforcement des fonctions de signalement des contenus. Julien Baldacchino, bonjour.
Bonjour.
Service web de France Inter, quelle est l'ampleur de ces contenus sur la plateforme et que peut faire Spotify ?
Alors c'est avant tout un podcast qui est ciblé, The Joe Rogan Experience, considéré comme l'émission la plus écoutée du monde, avant de devenir une exclusivité Spotify en 2020 pour un contrat de plus de 100 millions de dollars. Le podcast enregistrait, selon ses dires, plus de 200 millions d'auditeurs mensuels. Chaque émission, c'est donc plusieurs millions de personnes potentiellement touchées. Ce matin, dans un message posté sur Spotify, Joe Rogan a pris la défense des deux épisodes dans lesquels il avait invité des chercheurs anti-vaccins.
Ces deux personnes sont très qualifiées, très intelligentes, et elles ont une opinion différente du discours majoritaire. J'ai voulu entendre leur opinion. Ces épisodes ont été qualifiés de dangereux, de faire de la désinformation. Mon problème avec le terme de désinformation, c'est que des choses dont on disait qu'elles étaient fausses il y a peu de temps sont maintenant des faits avérés.
Le podcast de Joe Rogan est l'arbre qui cache la forêt. Comme la plateforme est ouverte à tous les podcasts, sans contrôle a priori, si l'on tape Covid dans Spotify, on tombe sur une foule de programmes dans toutes les langues. Par exemple, une émission de Thierry Casanovas, l'un des visages de la galaxie anti-vax en France. Désormais, Spotify ajoutera donc à tous les contenus évoquant le Covid un lien vers un centre d'information, cette fois vérifié.
Julien Baldacchino du service web de France Inter, merci à vous. Il préside le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024, mais ne sera pas aux Jeux Olympiques de Pékin 2022 à la fin de la semaine. Tony Estanguet est positif à la Covid-19 avec des symptômes légers toutefois. Le directeur général du comité olympique pourrait lui se déplacer avec une équipe réduite. Et pour lui, ça ressemble à une résurrection. Le footballeur danois Christian Eriksen reprend du service, si son nom ne vous dit rien. Vous vous rappelez peut-être le malaise spectaculaire de ce joueur en juin l'an dernier, victime d'un malaise cardiaque et secouru sur la pelouse par les services de réanimation. On lui a depuis posé un défibrillateur cardiaque, ce qui lui a coûté son poste à l'Inter de Milan. Mais Eriksen ne se laisse pas abattre, il vient de signer avec le club britannique de Brentford en première ligue, élite britannique du football. Excusez du peu. Dans un instant, la météo, puis notre invité, l'infectiologue Yazdan Pana.
Mathilde Thomas, fondatrice de Caudalie, nous parle de son innovation anti-âge, premier cru, la crème.
Après 10 ans de recherche, nous avons breveté avec l'Université de médecine de Harvard une nouvelle technologie inspirée de la science de l'épigénétique. Résultat, premier cru, la crème corrige les 8 marqueurs de l'âge. Rides et ridules, taches et éclats, élasticité et fermeté, hydratation et volume.
Donc zéro compromis sur l'efficacité.
Et pas de compromis non plus sur la naturalité et l'éco-responsabilité avec son packaging rechargeable.
Nouveau premier cru de Caudalie, disponible en pharmacie, parapharmacie et sur caudalie.com. Packaging signifie emballage. Plus d'informations sur nos engagements et produits sur caudalie.com.
France Inter aime
Draw From Within. Du chorégraphe Wim van de Kebus avec le ballet Rambert, présenté dans le cadre des saisons du Théâtre du Châtelet et du Théâtre de la Ville. Entre rêve et cauchemar, fête et affrontement, c'est une réflexion saisissante, parfois légère ou drôle, sur une époque en mal de lien entre les hommes. Une quête de voix à suivre dans ce monde bouleversé par la pandémie. Draw From Within. Du 3 au 6 février au Théâtre du Châtelet, un spectacle France Inter.
La météo de votre lundi.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, pruneau rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Attention au vent.
Ah oui, il devient tempétueux sur les régions méditerranéennes. Jusqu'à ce soir, on attend 90 à 120 km à l'heure, 110 à 130 même pour le Mistral sur la région PACA, près du relief et sur le littoral. Le Var est en vigilance orange. Sur le reste du pays, ça souffle aussi, en particulier sur le nord, jusqu'à 80 km à l'heure sur le littoral de la mer du Nord, où de fortes vagues peuvent engendrer des submersions. Sur le nord, la vigilance orange vague submersion est maintenue jusqu'à 14h. Côté ciel, on a des éclaircies sur le nord-ouest, jusqu'à la Gironde, au bassin parisien, au nord-est. Ça n'empêche pas une petite averse de temps en temps. C'est ensoleillé en Méditerranée, et puis ailleurs encore un ciel encombré avec un peu de pluie, un peu de neige en montagne, surtout sur les massifs de l'Est, vers 400 mètres. Comptez 5 degrés à Besançon cet après-midi, 7 à Strasbourg et à Rouen, 8 à Paris, 9 à Dinard ou à Clermont-Ferrand, 11 à Bordeaux, 14 à Bastia et 15 à Perpignan. C'est à peu près de saison tout ça.
Merci Élodie Calac de Météo France. Il est 13h30 sur France Inter.
France Inter. Le 13-14. Marion Loup.
Comment ça va la santé? Depuis 2 ans d'épidémie de Covid, on ne sait plus quoi répondre à cette question. Si on regarde le verre à moitié vide, aujourd'hui le taux d'incidence de la maladie en France reste l'un des plus élevés d'Europe, autour de 4000 pour 100 000. La semaine dernière, plus de 31 000 patients Covid sont hospitalisés, chiffre en hausse. Et on a récemment dépassé les 130 000 morts du virus. Si on regarde le verre à moitié plein maintenant, le nombre de contaminations baisse légèrement depuis le milieu de semaine dernière, 338 000 en moyenne hebdomadaire. Diminution aussi en soins critiques à 3 641 patients Covid. D'ailleurs, dès mercredi, les restrictions sanitaires se desserrent. Fini les jauges dans les grands rassemblements, le masque en extérieur. Fini aussi le télétravail obligatoire. Est-ce le début de la fin de la pandémie? On pose la question aujourd'hui à un membre du conseil scientifique, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital parisien de Bichat. Bonjour Yazdan Yazdanpana.
Bonjour.
Je le disais, Yazdanpana, les contaminations sont en baisse, de même que le nombre de patients en réanimation. Est-ce qu'on a passé le pic de cette cinquième vague?
Alors, c'est toujours très compliqué de dire ça, surtout un lundi matin après 2 jours de week-end, alors que on a eu l'impression que les cas, effectivement, baissaient depuis milieu de la semaine dernière. Donc, il faut avoir une semaine pleine avant de dire, mais probablement, on n'est pas loin de ce pic. Par rapport à ce que vous disiez, effectivement, si vraiment le nombre de cas baisse, on va le voir dans les jours qui vont arriver. Et c'est ce qu'en tout cas, les modélisateurs prévoit, donc c'est pas une surprise, même s'il faut vraiment observer les données. Et après, le fait que les hospitalisations ne baissent pas, c'est pas une surprise non plus, parce que les hospitalisations vont commencer à baisser avec un délai de 15 jours après la baisse des infections.
Donc dans 15 jours.
Voilà, dans 15 jours. Et le fait que les réanimations s'abaissent, ce n'est pas non plus une surprise, parce qu'on sait que le variant Omicron est moins grave, et donc il y a moins de patients en réanimation.
Donc on a peut-être passé le pic. Est-ce qu'il y aura une autre vague derrière celle-là?
Alors là aussi, c'est très compliqué à répondre à ces questions parce que on a eu beaucoup de surprises. On pourrait en avoir, mais malgré tout, on pense que maintenant il y a un taux de vaccination très élevé avec le variant Omicron, mais avec aussi les variants précédents. Il y a aussi pas mal de gens qui ont eu déjà la maladie. L'infection, en tout cas. Donc, on peut penser qu'avec ces différentes couches d'immunité vaccinale ou naturelle, on sera mieux protégé, en tout cas, contre les formes sévères, ce qui est notre objectif.
Donc, à vous entendre, Yazdanpana, en fait, Omicron, c'était presque une bonne nouvelle.
Non, je dirais pas ça, parce que malgré tout, l'Omicron a été à l'origine des hospitalisations, même si c'est moins sévère, il y a eu tellement de cas. L'incidence était très élevée parce que c'était plus contagieux que ça a été quand même à l'origine des hospitalisations, des décès. Quelque part, comme il y a eu le 19 janvier, le conseil scientifique estimait à peu près à 9 à 14 millions de personnes touchées. Donc ça serait encore plus aujourd'hui. Donc ça montre quand même qu'il y a une proportion très importante de la population qui ont été touchées. En plus, il y a des personnes vaccinées, et ça peut nous protéger contre, encore une fois, les formes sévères.
À propos de l'immunité, justement, question de Charles au Standard de France Inter. Bonjour Charles.
Oui, bonjour.
Vous aviez une question pour Yazdanpana.
Eh ben oui, moi j'apprends ce matin qu'une de nos relations, là, une jeune personne d'environ 25 ans, a été testée positive et donc a priori elle a le Covid. Donc alors qu'elle était vaccinée, donc ma question c'était bon, à quoi sert ce vaccin quoi?
La réponse du docteur Yves Dampena.
Oui, non, mais je pense que c'est une bonne question et merci de me donner l'occasion de répondre à votre question. La vaccination protège contre l'infection dans à peu près 50% des cas, mais ça dépend à quelle distance de votre deuxième ou troisième dose vous êtes. Donc, effectivement, ça veut dire que les gens qui sont vaccinés peuvent être contaminés par l'Omicron. Par contre, le vaccin vous protège contre les formes sévères. Et c'est très important. Et là, vraiment, le vaccin garde 90% d'efficacité.
Pendant combien de temps?
Alors, pour l'instant, c'est une question qu'on peut pas complètement répondre. En tout cas, 3 mois après le vaccin, le rappel, on est de l'ordre entre 80 et 90% d'efficacité. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore et on va apprendre. C'est pour ça que d'ailleurs le comité d'orientation vaccinale n'a pas souhaité pour le moment parler de quatrième dose, parce qu'on a une efficacité, mais les choses peuvent changer dans l'avenir. Donc une personne de 25 ans qui fait l'infection, malgré le vaccin, c'est pas une surprise. Ça peut arriver. Ça protège, et c'est important à moitié, mais ça peut, par contre... Là où c'est très important, c'est que ça empêche une évolution vers les formes sévères, vers les hospitalisations. Et ça, c'est très important de le rappeler. Si avec la vague Omicron, on n'avait pas ces taux de vaccination, sur le plan hospitalier et en réanimation, on serait, et sur la mortalité aussi, hein, on serait vraiment dans une situation intenable.
Question d'Annick au standard de France Inter. Bonjour Annick.
Bonjour.
Vous aussi, vous vous interrogez sur le vaccin?
Oui, nous avons eu la première dose en janvier, la deuxième en février et la troisième le 30 août par le centre de vaccination de Garches. Et nous nous posons la question, mon mari a 83 ans dans 8 jours, moi dans quelques semaines, sommes-nous encore protégés, dans quelle mesure?
Alors, docteur Yves Dampena.
Donc non, mais là aussi, c'est une très bonne question sur laquelle les scientifiques se sont penchés et qui ont continué à regarder les données qui arrivent. Donc, pour l'instant, les données qu'on a à notre disposition montrent que contre l'infection, mais contre les formes sévères, ces personnes sont encore protégées. Par contre, les données sont regardées de très près et il est possible qu'on voit qu'avec le temps, cette immunité baisse. Là, c'est fin août, d'après ce qu'elle nous a dit notre auditrice. Donc, ça veut dire qu'on est maintenant à cinq mois à peu près. Et donc, 5-6 mois. Donc, là, la question va se poser pour essayer de voir si éventuellement, dans 3, 4, 5 semaines, il ne faut pas faire un dose de rappel. Le conseil d'orientation vaccinale a pour le moment décidé de ne pas le faire, compte tenu des données qu'on a sur les formes sévères.
Et le conseil scientifique, dont vous faites partie, sur la même ligne à ce stade?
Oui, alors là, on se départage le travail, c'est plutôt les thématiques sur lesquelles le comité vaccin travail, mais on est en phase, on se parle régulièrement. Jean-François Delfraissy et Alain Fischer se parlent régulièrement.
Donc,
Il y a des membres communs aux deux comités, donc on est complètement en phase, oui.
Beaucoup de questions sur le vaccin, puisqu'on a aussi Marie qui est au standard de France Inter. Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
Votre question à vous concerne les enfants.
Oui, je voulais savoir, concernant la nouvelle version du vaccin Pfizer qui est annoncé pour le mois de mars, s'il allait concerner uniquement les majeurs plus de 18 ans ou alors s'il allait concerner aussi les mineurs de 5 à 11 ans.
Yes, Dampena.
Alors, ça c'est une question difficile. Pour l'instant, si je me trompe pas, les essais sont faits surtout, parce que ça, c'est toujours comme ça, d'abord on commence par les adultes, mais... Très rapidement, on va aller aussi sur les enfants. Par contre, je pense vraiment, parce que je vois pourquoi la question est posée, c'est pour retarder la vaccination chez les enfants en attendant que ce vaccin arrive. Je pense que c'est important de rappeler qu'il est important de vacciner les enfants, et notamment les enfants de 5 à 11 ans. La France, pour l'instant, il y a moins de 5% des enfants de moins de 11 ans qui ont été vaccinés, de 5 à 11 ans. Je pense que c'est vraiment important de souligner ça. Et dans un contexte où l'incidence est encore élevée, il ne faut pas attendre dans 6 mois, parce que ça, malgré tout, ça protège, y compris contre l'infection. Et peut-être plus chez un enfant que chez une personne âgée qui perd moins rapidement son immunité.
Avant de passer à mes autres questions, une dernière question peut-être sur le vaccin. Martin Hirsch, le patron de la PHP, pose la question de la gratuité des soins pour les non-vaccinés. Est-ce que c'est une question que vous vous posez aussi?
Alors, moi j'ai bien sûr beaucoup d'estime et de respect pour Martin Hirsch, il le sait, mais sur ce point-là, je ne suis pas sur la même ligne. Je pense que, et en plus lui, il se pose la question, pour l'instant il n'a pas dit qu'il fallait faire ça, parce qu'effectivement ça pose du coup la question, d'une manière générale, hein, à toutes les personnes qui fument, qui boivent d'alcool, etc., même si c'est pas des maladies transmissibles. Donc je pense que ça ouvre la porte à des questions très importantes. Mmh. Et en tant que soignant, en tout cas pour l'instant, je ne suis pas d'accord avec le fait de
conditionner les soins.
Voilà, des conditions, les soins. Et alors c'est pas les soins qui conditionnent.
C'est la gratuité des soins.
C'est la gratuité sur. La statut vaccinal.
Alors, revenons à l'épidémie. Les restrictions vont être allégées en France à partir de mercredi. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le moment ?
Je pense que vous avez dit, on a l'impression que ça baisse. Même si je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a des endroits. On sait qu'en Île-de-France, c'est en train de baisser parce que l'Île-de-France était arrivée au départ, était impactée par le Omicron beaucoup plus rapidement. Donc, on est en train de voir une baisse qui doit se confirmer. Donc, du coup, la France a décidé de mettre en place un relâchement de mesures, mais de manière par palier.
Graduelle.
De manière graduelle. Et là, on va avoir le fait que les jauges vont être enlevées, le fait que le télétravail ne va plus être obligatoire, ça ne veut pas dire qu'on va pas le faire. Donc, je pense que c'est bien de commencer à relâcher progressivement. Il faut bien sûr regarder après ce premier palier qu'est-ce qui va se passer avant de commencer le deuxième palier. En plus, ce premier palier, c'est des choses assez raisonnables. Il y a aussi le fait qu'on a le pass vaccinal, on enlève les jauges, mais il y a le pass vaccinal, donc ça peut quand même avoir un impact. Donc, je pense que c'est assez raisonnable, parce qu'il faut penser aussi que la population a besoin qu'on montre qu'il y a une lumière qui s'allume, qu'on va aller vers le printemps, les beaux jours, et que peut-être, j'espère, les choses vont aller mieux.
Alors, dans son dernier bulletin, Santé publique France alerte quand même sur la progression du virus chez les personnes âgées, plus 30% en une semaine chez les plus de 80 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on l'explique? Et surtout, comment on la prévient?
Alors, là aussi, je pense que de manière globale, oui, mais quand on regarde région par région, c'est pas forcément le cas. D'autre part, on sait que l'épidémie, en général, commence par les jeunes. Et donc, les jeunes arrivent un peu au pic avant les personnes âgées. Donc, je pense que chez les personnes âgées, ben, si ils sont vaccinés, s'ils ont reçu 3 doses de vaccin, ce qui semble être le cas maintenant, je sais plus, 80% des cas, ce qui est bien. Donc, ils sont quand même protégés contre les formes graves. Et ça, c'est très important à souligner.
Est-ce qu'on s'inquiète de ce nouveau variant BA2 qui est un dérivé d'Omicron?
Alors, les données qu'on a sur BA2, pour l'instant, c'est principalement le Danemark. C'est là où ça, pour des raisons qu'on ignore d'ailleurs, où il est devenu majoritaire. Alors, ce qu'on sait actuellement, c'est que probablement c'est plus contagieux, mais c'est pas plus sévère. L'impact sur le vaccin n'est pas différent de BA1. Donc, pour l'instant, les données qu'on a sont assez rassurantes. Ça doit pas complètement changer les données, mais il faut attendre d'autres éléments, notamment des Danois où le virus, ce variant-là, circule le plus. Mais je dirais, pour l'instant, le comité scientifique et les virologues, de ce qu'on a, ne sont pas très inquiets, mais encore une fois, il faut attendre d'autres données.
Un peu d'espoir, donc Yazdan Pana, infectiologue et membre du conseil scientifique, merci d'être venu nous répondre sur France Inter.
Merci à vous.
France Inter, le 13-14.
43 à venir sur France Inter, le feuilleton du 13-14 aux côtés cette semaine de petits champions du tennis. Rencontre avec un de nos espoirs français, 14 ans. Son modèle reste le Serbe Novak Djokovic, malgré les récents déboires du joueur non vacciné contre la Covid. Un peu plus tard, on retrouve le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
Regard critique aujourd'hui sur les opérations militaires extérieures de la France.
On en est à 32 ou 33 depuis 60 ans.
Rendez-vous juste avant 14h. Mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
Ce soir, France 2 diffuse Les Particules élémentaires, un téléfilm en deux parties, adapté du roman de Michel Houellebecq. Au casting, on retrouve notamment l'actrice Pascale Arbillot, qu'on retrouve aussi à votre micro, Frédéric, le temps d'une chanson.
Pascale Arbillot, qui se trouve être une grande admiratrice des livres de Michel Houellebecq. Elle a dévoré la plupart de ses romans.
J'ai pas lu, par exemple, Sérotonine. J'ai pas lu le dernier. Mais extension du domaine de la lutte, j'avais l'impression qu'on me parlait directement.
Le premier roman de
Michel Houellebecq. Ah, pour moi, qui est le marqueur de l'œuvre, j'avais l'impression d'être chez moi, d'être dans un terrain connu. Mais c'est d'ailleurs comme la musique que je vous ai proposée. Dans La carte et le territoire, c'était moins évident. Mais moi, c'est ça que j'aime chez lui. C'est ce regard tellement précis, clinique de la solitude, des rapports sexuels et de la vie familiale toxique. Et en même temps, je ne vois qu'un homme qui veut aimer, je ne vois que ça. Et c'est ça qui me bouleverse. Moi, c'est ce qui me bat chez les hommes, c'est ça.
Chanson, on l'entend, hein, de Portiched qu'a choisi Pascal Arbillot, Frédéric.
Glory Box, un titre sorti en 1994, comme d'ailleurs le premier roman de Michel Houellebecq. Elle avait alors 24 ans, Pascal Arbillot, et elle a été envoûtée par la voix de la chanteuse de groupe.
J'avais l'impression que cette voix, je la connaissais, qu'elle était nasillarde et en même temps une clarté folle, selon les moments, selon le refrain ou le couplet. Je trouve ça intelligent. C'est pas pléonasmique, c'est pas attention, je vais vous chanter un drame. Non, il y a quelque chose d'un peu aigre, mais j'aime bien, qui crée une complicité. Alors après, je sais que des gens détestent Portiched, ils disent « Oh là là, c'est dépressif, oh là là ». Alors moi, je trouve pas ça du tout dépressif. Je trouve ça très sexy.
Et ça vous met dans quel état ?
Ah, j'ai envie de bouger. Alors c'est compliqué de danser sur du Portiched, mais si je pouvais danser, franchement, je le ferais. J'ai une complicité avec cette femme tout de suite. Moi qui n'en a rien à foutre des noms des chanteuses, dans les groupes on s'en fout un peu. Je suis allée regarder, j'étais très fière de dire oui, c'est Bess Gibbon. Alors après, je regardais ce que faisait Bess Gibbon. J'adorais dire ces deux mots, Bess Gibbon. Et je la trouvais fascinante. Et puis, je sais pas, moi j'ai vu une actrice aussi. J'ai vu quelqu'un qui jouait. Enfin, j'ai entendu quelqu'un qui jouait.
Vous étiez vous-même actrice déjà ?
J'étais en première année du cours Pérémonie. Ah bah oui, j'étais vraiment débutante. J'apprenais, je devais travailler. Des rôles classiques. Et je venais d'avoir mon permis de conduire. J'avais une vieille panda un peu pourrie. Et parfois, je sortais le soir. Je mettais, je sais pas, le CD à l'époque. Parce qu'à l'époque, on écoutait les CD en entier. Et on connaissait l'ordre des chansons. Et donc, je faisais des tours de périph en panda pour écouter l'album en entier. Ça, c'est un truc que je pourrais le refaire, ça.
C'est bien la voiture pour écouter la musique.
Ah, c'est extraordinaire. Il n'y a pas mieux que la voiture. Les phares, tout ça, ça défile. Et après, on s'arrête dans une station. Parfois, j'ai écouté 10 fois.
Ce CD-là ?
Ouais.
Ça aurait pu être un personnage de Houellebecq qui écoute cette musique-là dans une Fiat Panda.
Mais bien sûr ! Oh, j'ai pas fait de rapprochement, je suis totalement Houellebecquienne.
Glory Box de Portiched, c'était donc Frédéric, le choix de Pascal Arbillot.
Pascal Arbillot qu'on retrouvera ce soir sur France 2 à 21h10 dans Les Particules élémentaires, un téléfilm de Gilles Torrent. Il y a un peu moins de suicides et un peu moins débats amoureux que dans le roman de Houellebecq, mais autant de désenchantement et d'humour. Et tous les acteurs sont parfaits.
Eh ben merci pour cette micro-critique Frédéric et à demain.
À demain.
À 13h49 sur Inter, il n'y a pas que Rafael Nadal dans la vie. Le joueur de tennis espagnol a certes remporté l'Open d'Australie ce week-end au terme d'un match de plus de 5 heures contre un adversaire de 10 ans plus jeune. mais arrivent après lui de nombreuses graines de champions. Ce sont eux les héros du feuilleton du 13-14 cette semaine. On vous emmène au Ptisas, à Tarbes, meilleur tournoi de tennis du monde pour les moins de 14 ans. Il avait lieu la semaine dernière. Rencontre avec Moïse Kouamé, francilien de Sarcelles, champion de France de tennis à 12 ans. Depuis un an, ce petit prodige évolue au Pôle France de Poitiers, pépinière d'espoir tricolore sous l'égide de la Fédération française de tennis. Une semaine dans la vie d'apprenti champion, c'est le reportage de Fanny Lechevestrier.
Ça fait quoi là d'être ici au tournoi des Ptisas à Tarbes? On voit qu'il y a des photos, il y a Alizé Cornet, il y a Novak Djokovic, ça représente quoi?
Bah moi ça met une petite pression quand même parce que forcément je vais faire comme eux, mais je pense que j'ai des moyens pour y réussir et je suis content de m'inspirer d'eux et de faire pareil qu'eux.
Comment on en arrive là à disputer le tournoi des Ptisas?
Le travail, pour moi, c'est la clé du succès. Et pour en arriver ici, il faut travailler dur, il faut en croire en ses rêves. Et à un moment, ça va peut-être aboutir. Mais il faut toujours croire en soi et s'accrocher, se battre et travailler jusqu'au bout.
Tu as commencé à quel âge?
Le tennis? À 5 ans et demi. Moi, j'ai découvert le tennis parce que j'ai vu ma sœur et mon frère commencer à taper. J'ai commencé à jouer au mur, je jouais bien et j'aimais bien. Et j'ai été détectée à la Ligue de Cergy, Pontoise. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à décoller et à me jouer.
Et après, on se retrouve à Poitiers. Comment on se retrouve là-bas?
Je voulais avoir une structure plus encadrée pour moi et un peu plus dure. Du coup, j'ai réussi à trouver Poitiers, qui est une très bonne structure avec de bons coachs, de bons joueurs. Et bah, je me plais bien là-bas. Être numéro 1 mondial, c'est mon objectif numéro 1, arriver jusqu'au bout et y rester, battre le record des grands chelems. Mon idole c'est quand même Novak Djokovic et j'aimerais bien le battre.
Et malgré la polémique de l'Open d'Australie, tu restes fan?
Ça changera pas je pense. J'adore ses capacités physiques, mentales et tactiques aussi. Je m'inspire beaucoup de lui parce que j'aimerais exactement jouer comme lui. Mais avec une touche de moi, très offensif. Et du coup si j'arrive à avoir les mêmes capacités que Djoko, mentales, physiques, et en plus attaquer comme le fait Federer et tout, franchement, je pense que je peux devenir fort, très fort même.
Carrément, tu doutes jamais de toi, t'as une confiance à même pas 13 ans qui est assez impressionnante.
Oui, bah, il faut, hein. Ça fait partie de la clé du succès et toujours croire en soi, toujours croire en ses rêves.
Puisque tu parles de tes rêves, Moïse, on voit pas beaucoup de joueurs noirs dans le tennis, même là, aujourd'hui, autour de nous. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui te motive aussi?
Oui, quand je pense à tous ceux qui sont pour la race, ou la race noire, ou la race blanche, pour moi, en fait, moi, je fais pas de différence et j'ai déjà été confrontée à des insultes racistes. Maca, retourne dans ton pays, ou des trucs comme ça, mais je m'en fous, je passe par-dessus ça. Et ça me donne encore plus d'élan pour continuer à faire ce sport. Obligé d'avoir beaucoup de maturité pour réussir. C'est pour ça que les sacrifices, il n'y a pas tout le monde qui peut les faire, mais il faut être beaucoup investi dans son projet pour réussir à les faire. Parce que je me dis, soit c'est maintenant que je profite, mais après ce sera très dur pour moi et tout, ou soit c'est maintenant que je commence à faire les efforts et après pendant 30, 40 ans, je peux profiter de ma vie pleinement et vivre avec ça avec d'autres gens. Si je gagne beaucoup d'argent, si je le peux, donner de l'argent à des associations, des gens pauvres, des gens dans les hôpitaux.
Tu vas être le Kylian Mbappé du tennis?
Exactement. Et ça me rend heureux et ça me donne envie de faire ce sport et de réussir.
Une semaine dans la vie d'apprenti champion du tennis. Reportage de Fanny Lechevestrier, réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
13h53 sur Inter, l'actualité à la lumière de l'histoire, c'est le vif de l'histoire de Jean Lebrun. Jean, l'intervention militaire française au Mali a commencé il y a 10 ans, en janvier 2012, élargie et maintenant compromise, elle va devoir être redéployée. L'intervention en ex-Yougoslavie, elle a occupé une génération entière de militaires et la ministre de la Défense annonce maintenant l'envoi de 700 soldats en Roumanie à la frontière de l'Ukraine.
Il y a 60 ans, le général de Gaulle fondait la stature internationale de la France sur la force de dissuasion nucléaire. Il entendait cependant se ménager aussi une force de projection à l'extérieur, mais il n'imaginait certes pas que la France interviendrait à ce point hors de nos frontières. Le colonel Goya vient de publier un livre sur ce qu'il nomme la guerre mondiale de la France, quasi ininterrompue depuis 60 ans. Il recense 32 grandes opérations, dont 19 relèvent clairement de la guerre et 20 ont été décidées par François Mitterrand, qui avait pourtant prévu, avant son élection, d'y renoncer.
Alors c'est vrai, Jean, que pour un président de la Ve République, il n'est pas difficile de déclencher ce genre d'opération. Peu d'obstacles politiques se lèvent devant lui.
Alors il faut reconnaître à François Mitterrand d'avoir, en 1990, organisé une large consultation avant d'entrer dans la première guerre d'Irak contre Saddam Hussein. Il a même envoyé un message d'explication au Parlement. Mais en principe, selon l'article 36 de la Constitution, c'est à celui-ci de déclarer la guerre. Ça ne s'est jamais passé ainsi. Le président réunit son conseil de défense et c'est décidé. Les motifs invoqués sont divers. Alors, dans le cas de l'Irak, il s'agissait de montrer qu'on était second ex aequo avec le Royaume-Uni dans une coalition dont les États-Unis étaient l'actionnaire principal. Ailleurs, on dira que nous sommes les soldats de la paix qui cherchons à éteindre une guerre civile. En Afrique, la justification sera le respect des accords de défense bilatéraux avec d'anciennes colonies. Nos unités, en tout cas, même avant la suspension du service national, ont toujours été composées, en ces circonstances, de soldats de métier ou de volontaires.
Et la décision peut être quasi instantanée. La logistique, en revanche, marque le pas.
Oui, alors à lire le colonel Goya, l'acheminement des forces françaises sur quelques théâtres d'opérations extérieures que ce soit n'a jamais cessé d'être un casse-tête. Dans la première guerre d'Irak, la division Daguet, parvenue en Arabie, dans une position un peu excentrée de la coalition, rassemblait au total 16 000 hommes. Eh bien, depuis 30 ans, on n'a pas réussi à dépasser cet étiage. Surtout, le matériel n'est pas toujours au niveau de nos ambitions. Il ne suffit pas de disposer de missiles que les fabricants ont fait monter en gamme, il convient d'avoir les moyens de les lancer. Il ne suffit pas d'avoir d'excellents chars, il faut que le service de déminage soit suffisant pour leur permettre d'avancer. Il est préférable aussi que les véhicules à chenilles roulent assez vite pour suivre les chars quand ceux-ci peuvent accélérer. Bref, les militaires de nos opérations extérieures jugent que les moyens leur sont trop et mal comptés alors qu'ils l'auraient de plus en plus demandé.
Le colonel Goya, auteur du livre dont vous nous parlez, appartient maintenant au corps de réserve. Il peut donc tirer un bilan assez librement.
Alors il ne se prive pas d'analyser sévèrement la mécanique du désastre à l'œuvre dans la pire de nos interventions au Rwanda. S'il en est une qui lui paraît réussie, c'est Serval au Mali, 2012. La décision en a été accélérée, un peu comme au temps de la foudroyance. Vous vous souvenez quand les paras, 1978, avaient sauté sur Kolwezi au Zaïre pour en débusquer les tigres katangais. Alors avec Serval aussi, l'ennemi était bien identifié. Trois groupes djihadistes qu'il s'agissait de neutraliser dans les villes qu'il contrôlait. Et en peu de semaines, l'affaire a été entendue. L'opération Barkhane qui a suivi, c'est une autre affaire. Les djihadistes se renouvellent dans leur poche de colère. Ils entremêlent de motifs religieux leurs raisons locales de mécontentement. Ce sont des adversaires de la mondialisation qui en utilisent les moyens, alors qu'en face, les coopérations interafricaines, européennes, que nous essayons de nouer, sont bien peu efficaces. Ainsi s'enlise l'opération Barkhane, qui a voulu élargir et prolonger à l'excès Serval. Et pendant ce temps, la Russie, qui est revenue en Afrique, par le Soudan, la Centrafrique, aura bientôt 1000 mercenaires sur place. Et comme on dit Jacques Julliard, Poutine, qu'il se tourne vers l'Afrique ou vers l'Ukraine, n'a pas vraiment la tête d'un humaniste de la Renaissance.
Alors qu'attendre, Jean ?
Je vais citer un humaniste de la Renaissance, Machiavel. On commence la guerre quand on veut, on la termine comme on peut.
Jean Lebrun, merci. Et à demain, je redonne les références du livre qui a inspiré cette chronique, signé Michel Goya, Le temps des guépards, la guerre mondiale de la France, publié chez Talendier. Dans quelques minutes, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Marion.
Avec Camille Cronier, vous nous emmenez à la montagne cette semaine.
Ben oui, on est à la Mongie, on attend le téléphérique là. On va grimper au pic du Midi pour le coup d'envoi de notre semaine pyrénéenne. Mais il arrive le téléphérique là.
Ben, à tout de suite pour le bol d'air.